Chapitre 20. Pour Maurice Heisel, ce dimanche fut un jour miraculeux. Les Braves d'Atlanta, son équipe de baseball favorite, remportèrent un doublé devant les redoutables Rouges de Cincinnati par 7-1 et 8-0. Lydia, qui se vantait effrontément de toujours prendre soin d'elle-même et qui avait pour dicton préféré « mieux vaut prévenir que guérir », glissa sur le sol mouillé dans la cuisine de son amie Janet et se luxa la hanche. Elle était à la maison et devait rester au lit. Ce n'était pas grave, pas du tout. Dieu merci. Quel Dieu! Mais cela signifiait qu'elle ne pourrait pas venir le voir pendant au moins 2 jours, peut-être même 4. 4 jours sans Lydia. 4 jours où il ne serait pas obligé de l'entendre répéter comment elle l'avait prévenu que l'échelle était branlante et que, par-dessus le marché, il était monté trop haut. 4 jours où il ne serait pas obligé de l'écouter raconter qu'elle avait toujours dit que le chiot des Rogan allait leur faire du mal, à toujours courir après l'overboy. 4 jours sans que Lydia lui demande s'il n'était pas content, maintenant, qu'elle l'ait harcelé pour qu'il envoie le formulaire de l'assurance, parce que sinon il serait déjà en route vers l'hospice. 4 jours sans que Lydia lui dise que beaucoup de gens menaient une vie parfaitement normale, ou presque, en ayant le bas du corps paralysé. Tiens, tous les musées et toutes les expos de la ville avaient des rampes en plus des marches, et il existait même des bus spéciaux. Ce sur quoi Lydia souriait courageusement et fondait en larmes. Maurice se laissa glisser dans une agréable sieste de fin d'après-midi. Quand il se réveilla, il était 5h30. Son voisin de chambre dormait. Il n'avait toujours pas situé Denker, mais il était quand même certain de l'avoir connu à un moment ou à un autre. Il avait commencé à poser des questions au vieillard, 1 ou 2 fois. Mais quelque chose le retenait de s'engager dans une conversation autre que banale avec cet homme. Le temps, le dernier tremblement de terre, le prochain tremblement de terre, et ouais, le guide annonce que Myron Floren revient cette semaine comme invité spécial de l'émission de Welk. Maurice se disait qu'il se retenait pour en faire un exercice mental. Quand on est plâtré des épaules aux hanches, ce genre de jeu n'est pas à dédaigner. Avec une petite énigme à résoudre dans la tête, on passe un peu moins de temps à se demander comment ça va être de pisser dans une sonde pour le restant de ses jours. S'il annonçait la couleur et posait la question à Denker, le jeu aurait probablement une conclusion rapide et peu satisfaisante. Ils élimineraient peu à peu le passé jusqu'à une expérience commune, un voyage en train, une croisière, peut-être même le camp. Denker aurait pu se trouver à Patine. Il y avait plein de juifs allemands là-bas. D'un autre côté, une infirmière lui avait dit que Denker allait probablement rentrer chez lui dans 1 ou 2 semaines. Si Maurice n'y était pas arrivé à ce moment-là, il se déclarerait perdant et poserait la question de but en blanc.
« Dites-moi, j'ai l'impression de vous connaître. »
Mais il y avait plus que ça, devait-il admettre. Tout au fond de lui, il ressentait quelque chose de sinistre qui le faisait penser à un conte, la patte du singe, où chaque vœu n'est exaucé qu'à la suite d'un affreux coup du sort. La patte échoit à un vieux couple qui souhaite avoir 100 dollars et les reçoit en guise de condoléances quand leur fils unique est tué dans un horrible accident au moulin. Alors la mère demande le retour du fils. Peu après, ils entendent des pas traînants dans l'allée, puis des coups sur la porte. Une vraie fusillade. La mère, folle de joie, se précipite en bas de l'escalier pour ouvrir à son fils. Le père, fou de terreur, cherche la patte desséchée dans le noir, finit par la trouver et souhaite que son fils reste mort. L'instant d'après, la mère ouvre la porte et ne voit rien sur le perron qu'un tourbillon de vent noir. Maurice avait le sentiment qu'il savait peut-être, en fait, où il avait connu Denker, mais que ce savoir ressemblait au fils du vieux couple dans le conte, revenu de parmi les morts, mais pas comme sa mère l'imaginait, horriblement mutilé, déchiqueté par la machinerie où il était tombé. Il savait que son rapport avec Denker pouvait être une créature de l'inconscient, frappant sur la porte séparant cette part de son esprit d'une compréhension rationnelle qui exigeait d'être admise, et qu'une autre partie de lui cherchait frénétiquement la patte de singe, ou son équivalent psychologique, le talisman qui ferait disparaître à jamais ce savoir. Il regarda Denker en fronçant les sourcils.
« Denker, Denker, Où t'ai-je rencontré, Denker? Était-ce à Patine? Est-ce pour cela que je ne veux pas le savoir?
Sûrement. Pourtant, deux survivants de l'horreur n'ont pas à se craindre l'un l'autre.
À moins, bien sûr.
Il se rembrunit. Il se sentait très proche, soudain, mais un fourmillement dans ses pieds vint l'agacer, déranger sa concentration. Un picotement comme lorsqu'on a dormi sur un muscle et que la circulation revient peu à peu. S'il n'y avait pas ce foutu plâtre, il pourrait se frotter le pied et le faire disparaître. Il pourrait...
Maurice ouvrit grand les yeux.
Pendant un long moment, il resta parfaitement immobile, oubliant Lydia, oubliant Denker, oubliant Patine, oubliant tout sauf ce picotement dans les pieds.
Oui, les deux pieds, mais plus fort dans le pied droit.
Une sensation qui fait dire « mon pied s'est endormi », alors qu'on veut dire en fait « mon pied se réveille ».
Maurice tendit la main sur la sonnette, appuya sans cesse jusqu'à ce qu'une infirmière arrive.
L'infirmière voulut ne pas en tenir compte. Elle avait déjà vu des patients pleins d'espoir. Son médecin n'était pas à l'hôpital et elle n'avait pas envie de l'appeler chez lui. Le docteur Kellerman était connu pour son caractère exécrable, surtout quand on le dérangeait.
Maurice ne se laissa pas faire. Conciliant, d'habitude, cette fois il était prêt à faire du tapage, un scandale s'il le fallait.
Les braves avaient fait un doublé. Lydia s'était luxé la hanche. Et les bonnes surprises arrivent par trois, tout le monde le sait.
Finalement, l'infirmière revint avec un interne, un jeune homme appelé docteur Timpnel, qui avait l'air de s'être coiffé avec une tondeuse à gazon émoussée.
Le docteur Timpnel sortit un couteau suisse de la poche de son pantalon blanc, déplia la lame tournevis cruciforme et en fit courir la pointe sous le pied droit de Maurice, de l'orteil au talon. Le pied ne se replia pas, mais les orteils frémirent. Très sensiblement, impossible de s'y tromper. Maurice fondit en larmes.
Timpnel, plutôt ahuri, s'assit près de lui sur le lit et lui tapota la main.
« Ce genre de choses arrive de temps en temps, »
dit-il, puisant peut-être dans sa vaste expérience clinique qui datait d'au moins 6 mois.
« Aucun médecin ne peut le prédire, mais cela arrive.
Et apparemment, cela vous est arrivé. »
Maurice hocha la tête à travers ses larmes.
« De toute évidence, vous n'êtes pas entièrement paralysé. »
Timpnel lui tapotait toujours la main.
« Mais je ne me risquerai pas à prévoir si votre rétablissement sera léger, partiel ou complet. »
« Je doute que le docteur Kellerman puisse vous en dire plus.
Je pense qu'il vous faudra une très longue rééducation, parfois pénible. Mais beaucoup moins pénible que... vous savez quoi ?»«
Oui, »
dit Maurice en pleurant.
« Je sais. Dieu merci. »
Il se souvint d'avoir dit à Lydia que Dieu n'existait pas et sentit une rougeur brûlante envahir son visage.
« Je verrai à ce que le docteur Kellerman soit prévenu, »
dit Timpnel, qui lui tapota une dernière fois la main avant de se lever.
« Pourriez-vous prévenir ma femme ?»
demanda Maurice. Car Lydia avait beau se tordre les mains et pleurer tous les malheurs du monde, Maurice ressentait quelque chose pour elle. Peut-être même de l'amour. Une émotion conciliable avec l'envie épisodique de tordre le cou à la personne aimée.
« Oui, je vais m'en occuper. Mademoiselle, pourriez-vous... »«
Bien sûr, docteur, »
répondit l'infirmière. Timpnel réussit à ne pas sourire.
« Merci. »
dit Maurice en s'essuyant les yeux avec un Kleenex pris sur la table de nuit.
« Merci beaucoup. »
Timpnel s'éclipsa. À un moment de la discussion, M. Denker s'était réveillé. Maurice voulut s'excuser du bruit, ou peut-être d'avoir pleuré, puis décida que c'était inutile.
« On doit vous féliciter, me semble-t-il. »«
Nous verrons, »
répondit Maurice. Mais comme Timpnel, il eut du mal à s'empêcher de sourire.
« Nous verrons.
Certaines choses s'arrangent d'elles-mêmes, »
dit vaguement Denker, qui se tourna vers la TV commandée à distance. Il était 6h moins le quart, et ils regardèrent la fin de Hee-Haw, puis le journal du soir. Le chômage s'aggravait. L'inflation n'allait pas trop mal. Billy Carter pensait se lancer dans la bière. Un nouveau sondage indiquait que si les élections avaient lieu maintenant, il y aurait 4 candidats républicains capables de battre son frère Jimmy. Et il y avait eu des incidents raciaux après le meurtre d'un enfant noir à Miami.
« Une nuit de violence », dit le présentateur.
Plus près de chez eux, on avait trouvé un cadavre non identifié dans un verger près de l'autoroute 46, tué à coups de matraque et de couteau. Lydia téléphona juste avant 6h30. Le docteur Kellerman l'avait prévenu. Se fondant sur le rapport du jeune interne, il était d'un optimisme prudent. Lydia était d'un enthousiasme prudent, elle aussi. Elle jura de venir le lendemain, même si elle devait en mourir. Maurice lui dit qu'il l'aimait. Ce soir-là, il aimait tout le monde. Lydia, le docteur Timpnel et sa tondeuse à gazon, M. Denker, même la jeune fille qui apporta les plateaux repas quand il raccrocha. Au menu, il y avait des hamburgers purés, un mélange carotte-petit pois et une petite coupe de glace comme dessert. La môme qui servait s'appelait Félix. Timide et blonde, elle avait peut-être 20 ans. Elle aussi avait de bonnes nouvelles. Son petit ami avait décroché un emploi de programmeur chez IBM et lui avait officiellement demandé de l'épouser. Monsieur Denker, qui dégageait un certain charme suranné auquel toutes les jeunes filles étaient sensibles, se montra ravi.
« Vraiment, c'est merveilleux. Asseyez-vous et racontez-nous tout ça. Les moindres détails, n'oubliez rien. »
Félix rougit et sourit et dit qu'elle ne pouvait pas.
« Nous avons encore à faire le reste de l'aile B et ensuite l'aile C. Regardez, il est déjà 6h30. »«
Alors, demain soir, c'est sûr. Nous insistons. N'est-ce pas, Monsieur Heisel ?»«
Oui, vraiment. »
murmura Maurice. Mais son esprit était à des millions de kilomètres. « Asseyez-vous et racontez-nous tout ça. » Des paroles prononcées avec le même ton ironique. Il avait déjà entendu ça, sans aucun doute. Mais était-ce Denker qui les avait prononcées ? Était-ce lui ? Les moindres détails. La voix d'un homme courtois, d'un homme cultivé, mais une menace dans cette voix. Une main de fer dans un gant de velours. Oui. Où ? Les moindres détails. N'oubliez rien.
Patine ?
Maurice Heisel regarda son dîner. Monsieur Denker s'y était déjà attaqué de bon cœur. Son badinage avec Félix l'avait mis d'excellente humeur, comme lorsque le jeune garçon blond lui avait rendu visite.
« Une gentille fille !»
dit Denker, sa voix étouffée par une bouchée de carottes petits pois.
« Ah oui ?»«
Asseyez-vous. »«
Félix, vous voulez dire. Elle est... »«
Et racontez-nous tout ça. »«
Délicieuse !»
Les moindres détails, n'oubliez rien. Il regardait toujours son dîner, se souvenant du camp, de ce que cela vous faisait au bout d'un certain temps. Au début, on aurait tué pour un bout de viande plein de vers ou complètement pourri. Mais ensuite, cette faim démente disparaissait, et les ventres devenaient une sorte de caillou gris au milieu du corps, avec l'impression qu'on n'aurait plus jamais faim de sa vie. Jusqu'à ce qu'on vous montre de la nourriture.
Racontez-nous tout ça, mon ami. N'oubliez rien. Asseyez-vous et dites-nous tout là-dessus.
Sur le plateau en plastique, le plat principal du dîner était un hamburger. Pourquoi lui faisait-il penser soudain à de l'agneau ? Pas de mouton, ni des côtelettes. Le mouton est souvent plein de nerfs, les côtelettes trop dures. Et celui dont les dents pourries ne sont plus que des chicots pourrait ne pas être excessivement tenté par l'un ou l'autre. Non, il pensait à un savoureux ragoût d'agneau avec beaucoup de sauce et de légumes. Des légumes tendres et parfumés. Pourquoi penser à un ragoût d'agneau ? Pourquoi, sinon... La porte s'ouvrit en claquant. C'était Lydia, les joues roses d'avoir trop souri. Une béquille en aluminium sous l'aisselle, elle marchait comme Chester, le copain du shérif Dillon.
« Maurice !»
lança-t-elle en roulant les airs. À sa remorque, l'air tout aussi heureuse et tremblante, apparut Emma Rogan, la voisine. Monsieur Denker, surpris, laissa tomber sa fourchette. Il marmonna des injures à mi-voix et la ramassa en grimaçant.
« C'est tellement merveilleux !»
L'excitation la faisait presque aboyer.
« J'ai appelé Emma pour lui demander de venir ce soir au lieu de demain. J'avais déjà la béquille. « M, j'ai dit, « si je ne peux pas supporter cette torture pour aller voir Maurice, quelle épouse suis-je donc pour lui ? C'est exactement ce que j'ai dit, n'est-ce pas Emma ?»
Emma Rogan, se souvenant peut-être que son petit chien était au moins en partie responsable, approuva énergiquement.
« Alors j'ai appelé l'hôpital.
Lydia se débarrassa difficilement de son manteau et s'installa pour une visite de longue durée.
Et ils m'ont dit que les heures de visite étaient passées, mais que dans mon cas, ils feraient une exception. Sauf qu'il ne faut pas rester trop longtemps pour ne pas déranger M. Denker. Nous sommes déjà en train de vous déranger, n'est-ce pas, M. Denker ?
Non, chère madame, répondit Denker, résigné.
Assieds-toi, Emma, prends la chaise de M. Denker, il ne s'en sert pas. Voyons, Maurice, arrête avec cette glace, tu en mets partout sur toi, un vrai bébé. Peu importe, nous allons te remettre sur tes jambes en un clin d'œil. Je vais te faire manger. Ouvre bien grand. Passons les dents, passons les gencives, attention, estomac, nous voilà. Non, ne dis rien. Maman sait ce qu'il faut faire. Regarde un peu, Emma, il n'a presque plus de poils sur le caillou. Et je m'en étonnais pas, pensant qu'il ne marcherait peut-être plus jamais. C'est la miséricorde divine. Je lui avais dit que l'échelle était branlante. Maurice, j'ai dit, descends de là avant.
Elle lui fit manger sa glace et jacassa pendant une heure avant de partir, sautillant avec ostentation sur sa béquille, tandis qu'Emma lui prenait le bras. De sorte que les ragoûts d'agneau et les voix faisant écho à celles du passé étaient complètement sortis de l'esprit de Maurice Heisel. Il était épuisé. Dire que la journée avait été dure aurait été un euphémisme. Il tomba immédiatement dans un profond sommeil. Maurice se réveilla entre 3 et 4 heures du matin, un cri bloqué dans sa gorge. Maintenant, il savait. Il savait exactement où et quand il avait fait la connaissance de son voisin de lit. Sauf qu'alors, il ne s'appelait pas Denker. Oh non, pas du tout. Il venait de sortir du cauchemar le plus horrible qu'il ait fait de sa vie. Quelqu'un leur avait donné, à Lydia et à lui, une patte de singe, et ils avaient souhaité recevoir de l'argent. Alors un petit télégraphiste en uniforme des jeunesses hitlériennes s'était trouvé dans la pièce. Il avait tendu un télégramme à Maurice. « Regret de vous informer. Deux filles mortes. Stop. Camp de concentration de Patine. Stop. Regret sincère pour cette solution finale. Stop. Lettre commandant suit. Stop. Vous racontera tout. Stop. N'oubliera aucun détail. Stop. Vous prie accepter notre chèque de 100 Reichsmark déposé demain à votre banque. Stop. Signé Adolf Hitler, chancelier. » Lydia poussa un grand cri. Elle, qui n'avait jamais vu les filles de Maurice, leva bien haut la patte de singe et souhaita qu'elles reviennent à la vie. La pièce fut plongée dans le noir et soudain, à l'extérieur, on entendit des pas irréguliers, titubants. Maurice se retrouva à quatre pattes dans une obscurité qui empestait la fumée, le gaz et la mort, à la recherche de la patte de singe. Il leur restait un vœu. S'il retrouvait le talisman, il pourrait souhaiter la fin de cet horrible rêve, pour ne pas voir ses filles maigres comme des squelettes, les yeux creusés comme des blessures, leurs numéros consumant la maigre chair de leurs bras. Des coups sur la porte. Une vraie fusillade. Il chercha frénétiquement la patte de singe, mais sans résultat. Cela lui sembla durer des années. Soudain, derrière lui, la porte s'ouvrit à grand fracas. « Non, pensa-t-il, je ne regarderai pas. Je fermerai les yeux. Je me les arracherai de la tête s'il le faut, mais je ne regarderai pas. » Mais il regarda. Il y fut obligé. Dans le rêve, c'était comme si des mains énormes lui avaient fait tourner la tête. Ce n'étaient pas ses filles dans l'embrasure de la porte. C'était Denker. Un Denker beaucoup plus jeune, en uniforme SS. Sa casquette avec l'insigne à tête de mort inclinée sur le côté, d'un air crâne. Ses boutons brillaient d'un éclat impitoyable. Ses bottes luisaient d'une manière fatale. Il serrait dans ses bras une énorme marmite de ragoût d'agneau qui bouillonnait lentement. Et le Denker de rêve, avec un sourire suave et sinistre, lui dit « Asseyez-vous et racontez-nous ça. Nous sommes entre amis, hein ? Nous avons appris que de l'or a été dissimulé, qu'on a caché du tabac, que pour Schneibel, ce n'était pas du tout une intoxication alimentaire, mais du verre pilé dans son dîner 2 jours plus tôt. Ne faites pas injure à notre intelligence en prétendant ne rien savoir. Vous savez tout. Alors dites-nous tout. N'oubliez rien. » Alors, dans le noir, respirant l'odeur affolante du ragoût, il leur raconta tout. Son estomac réduit à un petit caillou se changea en tigre affamé. Les mots coulaient sans retenue de ses lèvres, mêlant dans ce torrent le vrai et le faux, comme les divagations d'un fou.
Brodin a collé l'alliance de sa mère sous son scrotum.
Asseyez-vous.
Laszlo et Hermandorski ont parlé d'attaquer le Mirador numéro 3.
Et racontez-nous tout ça.
Le mari de Rachel Tannenbaum a du tabac. Il en a donné au garde qui vient après Zeikert, celui qu'on appelle Manchecrotte, parce qu'il n'arrête pas de se mettre les doigts dans le nez et ensuite à sa bouche. Tannenbaum lui en a donné pour qu'il ne prenne pas les boucles d'oreilles en perles de sa femme.
Oh, cela n'a plus aucun sens. Vous avez mélangé deux histoires, à mon avis. Mais ça va bien, ça va très bien. Nous préférons vous voir mélanger vos histoires que d'en oublier une. Vous ne devez rien oublier.
Il y a un homme qui répond à l'appel de son fils mort pour recevoir double ration.
Dites-nous son nom.
Je n'en sais rien, mais je peux vous le montrer, s'il vous plaît. Oui, je peux vous le montrer. Je peux.
Dites-nous tout ce que vous savez.
Je peux.
Jusqu'à ce qu'il émerge et se réveille avec un cri brûlant dans la gorge. Pris d'un tremblement incontrôlable, il regarda la forme endormie dans l'autre lit, fixant surtout la bouche ridée, aux lèvres rentrées.
Vieux tigre édenté.
Vieil éléphant solitaire et vicieux, avec une défense en moins et l'autre pourri à la racine.
Monstre sénile.
Oh mon Dieu,
chuchota Maurice Heisel dans un murmure aigu, inaudible. Les larmes coulèrent le long de ses joues, vers ses oreilles.
Oh Dieu bon, l'homme qui a assassiné ma femme et mes filles dort dans la même chambre que moi. Mon Dieu, oh mon cher Dieu, il est là dans la même pièce que moi.
Les larmes se mirent à couler abondamment. Larmes de rage et d'horreur, chaudes, brûlantes. Tremblant, il attendit le matin. Et le matin ne vint pas avant une éternité.